Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés. Je suis comme à chaque fois ravi de vous accueillir dans ce podcast dont l'objectif est de vous donner envie de voir ou revoir un long métrage grâce à une conversation intime avec mon invité qui nous explique pourquoi et comment un film est devenu synonyme de souvenirs personnels ou une grande source de vocation ou d'inspiration. Même si le 25 décembre est derrière nous, les vacances de Noël se poursuivent, tout comme les films de Noël à la télé d'ailleurs, et dans cet ultime épisode de 2021, je suis très heureux d'accueillir à nouveau Julie. En mai dernier, vous aviez pu faire la connaissance de la docteure ingénieure en chimie, originaire de Poitiers, grande fan de films indiens. Elle était venue nous parler du film bollywoodien Devdas. Cette fois, Julie est de retour pour évoquer sa relation avec le film réalisé par Brian Hanson, Noël chez les Muppets. C'est quand elle avait 10 ans, lors de la nuit du 24 au 25 décembre, que la cassette vidéo a échoué dans les mains de Julie, loin de s'imaginer que ce cadeau allait définitivement changer et rythmer ses futures périodes de fête. Avec Julie, on a parlé de marionnettes, de Scrooge, de Noël chez les grands-parents, de Neige, de Dickens, du Muppet Show, de différentes adaptations de Christmas Carol ou encore d'un personnage qui rappelle furieusement Hagrid dans Harry Potter. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui anime le podcast Bollywood Versus, avec sa complice Mélanie, juste après un extrait de la bande-annonce de Noël chez les Muppets.
Oh, Balivert, c'était l'homme le plus cupide de la Terre.
C'est Ebenezer Scrooge.
Jusqu'à cette fameuse nuit où il fit une rencontre extraordinaire.
Bonjour.
Noël chez les Muppets.
Je vois, monsieur Scrooge, même si c'est un homme odieux, pingre et mal fagoté.
Balivert.
Bonjour, monsieur
Sanker,
monsieur
Sanker.
Tu crois qu'on risque rien sur ce rebord de fenêtre?
Ah! S'il n'avait pas pris pour les crapules, vous seriez le vainqueur.
De qui s'agit-il, monsieur Cratchit?
Si vous permettez, monsieur Scrooge, le personnel souhaiterait que l'on rajoute une pelletée de charbon dans le poêle.
Et que dirait le personnel s'il se retrouvait soudain à la porte?
Bonjour, Julie.
Salut, Junior.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie. On est ensemble pour évoquer un film de circonstance en ces vacances de Noël, car tu as choisi de nous parler du long métrage Noël chez les Muppets. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour celles et ceux qui n'ont jamais vu, Julie, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Noël chez les Muppets, s'il te plaît?
Alors, Noël chez les Muppets, c'est une adaptation, en fait, d'un roman de Dickens, et ça parle de Ebenezer Scrooge, qui est un vieil acariâtre, qui déteste tout le monde, qui n'a vraiment aucune empathie, et qui trouve que Noël, c'est vraiment ridicule. D'ailleurs, tout le monde devrait travailler à Noël, parce que sinon, on perd de l'argent. Du coup, finalement, cette nuit de Noël, il va être visité par trois fantômes. Donc, le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents, et le fantôme des Noëls futurs, qui vont être un peu sa dernière chance de rédemption et d'éviter les flammes de l'enfer comme ses anciens acolytes Robert et Jacob Marley.
Noël chez les Muppets, donc c'est un film qui est sorti en France au cinéma le 15 décembre 1993. Une réalisation de Brian Hanson, au casting Michael Caine, Stephen McIntosh et côté comédien de doublage. En VO, on a les voix de Jerry Nelson, Frank Oz, David Goels ou encore Steve Whitmire. Alors, je sais pas grand chose, Julie, restez très discrète. Hein, sur l'angle que va prendre cette émission, bon, me donner 2-3 clés, mais j'ai un peu peur. Alors, faut le rappeler quand même, c'est son deuxième passage dans l'émission, hein, d'ailleurs, sois à nouveau la bienvenue. J'aimerais savoir, en fait, surtout, la rencontre avec ce film, ça s'est opéré quand? Tu avais quel âge? On était en quelle année? Est-ce que c'était en DVD, en VHS? Est-ce que c'était au cinéma? Enfin bref, dis-nous tout.
Et ma rencontre avec ce film de Noël, elle s'est passée à Noël, en fait. J'avais une dizaine d'années, donc j'étais en train de fêter Noël en famille. Et puis, donc on ouvre les cadeaux arrivés vers minuit, puisque nous, on ouvre plutôt le 24 à minuit. quand on passe justement au 25, et j'ouvre donc mon cadeau, et là, qu'est-ce que je vois ? Attention, une VHS. Donc, pour ça oh paraîtrait mieux aujourd'hui de dire ça, mais je vois du coup cette VHS du Noël de chez les Muppets, parce que ma mère adore les Muppets, elle a grandi avec, elle fait partie de la génération qui a grandi plutôt avec les Muppets. Et donc moi je connais pas du tout, j'ai un petit frère et c'est la nuit de Noël, tout le monde traîne, on décide de le mettre à la TV. Et donc je l'ai vu au fin fond de la Bourgogne, puisque mes grands-parents vivent là-bas. Donc c'est littéralement, ils vivent littéralement dans la forêt de sapins, avec tous les sapins qui sont vendus à Noël. Il fait nuit, il neige, je lance le Noël chez les Muppets. Bah voilà, la magie de Noël, elle est là. Je suis en train de vivre Noël avec un film de Noël. Et puis ça chante, parce que c'est un film Disney, et que j'ai une grande passion pour les films qui chantent. Je pense que ça s'est traduit après dans Bollywood. Donc forcément, ça ne pouvait que matcher. C'est le film de Noël pour moi et mon frère depuis toujours.
Pour les parents qui nous écoutent, c'est un film qui est disponible sur Disney+. Voilà, si vous voulez le montrer à vos enfants. D'accord, il y a une vraie recontextualisation de ce à quoi doit ressembler Noël, quoi. À la fois chez toi, via ce film, et en plus, géographiquement parlant, tu es, avec les yeux d'enfant, c'est Noël autour de toi, quoi.
Ah bah oui, parce que vraiment, en plus, mes grands-parents sont dans une maison vraiment au cœur de la forêt, donc au milieu de nulle part, ils ont une cheminée, il y a de la neige, parce qu'il fait très froid en Bourgogne en hiver. Donc oui, je suis vraiment en train de vivre un conte de Noël, et je regarde un conte de Noël à la TV, et c'est encore plus beau, donc ouais.
À 10 ans, qu'est-ce qui t'interpelle dans ce film-là ? Enfin, qu'est-ce qui fait que, pendant le visionnage, tu trouves que c'est génial ce que tu regardes ?
Déjà parce qu'il y a beaucoup d'humour, c'est assez intéressant parce que pour un film pour enfants, ça casse très vite le quatrième mur. On a des protagonistes qui nous parlent comme s'ils étaient vraiment Charles Dickens et son acolyte. Et puis, du coup, il y a ce côté un peu peluche, on va dire, avec ces marionnettes de Disney. Il y a de la neige et puis voilà, ça chante. J'ai grandi, j'étais biberonnée avec Disney et tous les dessins animés où ça chante. Moi, j'ai pu voir Le Roi Lion au cinéma à l'époque. Donc voilà, c'est forcément, il y a tous les ingrédients typiques où Disney est gagnant. Il est obligé de réussir avec les enfants.
On va préciser pour nos auditrices et auditeurs, le film mélange des êtres humains et des marionnettes. Hein. Et d'ailleurs, dans le monde des marionnettes, vous avez tout un tas d'animaux différents. Des pingouins, des rats...
Ah oui, on a même les légumes qui chantent et qui parlent.
Improbable. Des raisins qu'on pense qu'on peut les manger, en fait, ils parlent.
Ça doit être compliqué quand même. Noël, du coup, est pas très vegan. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué, je pense, le rapport. Vu que ton raisin parle, qu'est-ce que tu fais ? Tu le manges, tu le manges pas ?
S'il y a des gens qui prennent le podcast en cours, ils vont halluciner, ils vont se dire ils ont fumé avant de faire l'émission, quoi. Non, c'est un film de Noël version Disney. Parce que là, on est en plein dans les années 90. Il y avait le Muppet Show à la télé, il y avait le Bébête Show, il y avait les Guignols. Est-ce que tu avais l'habitude de voir des marionnettes à l'écran ?
Mais pas du tout, en fait. Moi, c'est la première fois que je rencontrais les Muppets. Et d'ailleurs, après, derrière, j'ai jamais vraiment regardé de Muppet Show. La seule autre fois où j'ai vu les Muppets, c'est parce qu'on avait tellement aimé ce Noël chez les Muppets, on a fini par chercher d'autres cassettes. Et ils ont fait une autre adaptation qui est celle de L'île au trésor. Et donc ça fait partie également de mes autres VHS un peu doudou avec les Muppets. Mais sinon, j'ai pas vraiment regardé les autres films, le Bébête Show non. Et les Guignols de l'info, ça a été beaucoup plus tard, quand j'étais plus grande et que je comprenais beaucoup mieux l'ironie et la satire derrière, surtout... j'ai surtout mémoire de la campagne présidentielle, voilà, de Ségolène Royal et Sarkozy. C'était, surtout à cette époque-là, c'était vraiment là, un peu leur âge d'or. Donc c'était beaucoup plus longtemps.
Là, on était en 2007, en effet, pour les élections présidentielles que posait Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal, en effet. J'ai oublié de te demander d'ailleurs d'évoquer les thématiques traversées par le film Noël chez les Muppets, évidemment. Il y a beaucoup de choses. Et il y a l'égoïsme, et l'inverse, l'altruisme, il y a la solidarité. J'aimerais bien que tu évoques un peu tout ça. Avec le regard adulte, quelles sont les thématiques que tu as dégagées de ce film ?
Les thématiques du film, je trouve qu'on les perçoit aussi dès qu'on est petit. Le film le fait bien comprendre et je pense que c'est pour ça qu'il m'a beaucoup impacté. Déjà, on te parle de pauvreté. C'est une période très sombre, cette ère victorienne, il y a vraiment beaucoup de pauvreté. Et puis, Dickens a été très marqué par le fait que lui, petit, à 12 ans, il a dû travailler à l'usine. Pour mettre des étiquettes sur des boîtes de cirage, ça l'a beaucoup marqué. Et du coup, le travail des enfants est quelque chose qui revient très souvent. On pense à Oliver Twist, évidemment. Et là, on le retrouve un peu dans le film aussi au travers de ces jeunes enfants qu'on voit dans le film et notamment Tiny Tim. Donc il y a cette pauvreté, ces gens qui sont expulsés même en hiver et d'autres qui s'enrichissent sur leur dos. On a le handicap puisqu'on a un petit personnage qui s'appelle Tiny Tim qui est tout mignon, qui est estropié mais qui déborde de joie de vivre et que sa famille considère de façon tout à fait normale mais qui ne peut pas survivre en l'état actuel des choses sans de l'aide parce que son père touche trois fois rien vu que son patron est Benezer et donc un avare incroyable et que donc il est voué normalement à mourir si les gens ne savent pas faire preuve de bonté. Et on voit ça, donc ça nous parle également de la mort de ce petit garçon, mais aussi des Benezer. Qu'est-ce qui va l'attendre après? Alors évidemment, on parle de Noël, il y a beaucoup de valeurs chrétiennes, ça parle de charité, d'amour, de partage. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne te parle pas que de la famille. On ne te dit pas que Noël, c'est forcément la famille. On a le neveu des Benezer qui, lui, fête Noël avec des amis. Quand il était plus jeune, et Benezer aussi était avec des amis. L'important, c'est d'être avec des gens qu'on aime, qu'on est content de voir, avec qui on est content de partager à manger, et pas de tout garder pour soi.
C'est la fameuse évolution attendue du côté de Scrooge, hein, qui est évidemment d'un égoïsme... Enfin, c'est pire que Picsou, quoi, au départ du film. Plus avare que lui, on meurt, et puis finalement, évidemment, il y a une trajectoire qu'il prend pour comprendre que la charité aussi, le partage, sont des valeurs importantes, ouais.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans le film, tout le monde dit qu'il est plus froid que l'hiver. Quand on rentre chez lui, il fait plus froid que dehors, alors que tout le monde est en train de congeler dehors au milieu de la neige, tellement ce personnage aspire la joie. C'est vraiment un détraqueur, en fait. Il aspire la joie, il aspire le bonheur, et tu ne peux que dépérir en étant à côté de lui. Et voilà, exact. C'est toute cette dimension sociale qui était très importante pour Dickens.
Excusez-moi, Monsieur Scrooge, mais c'est l'heure de la fermeture.
Parfait. Je vous vois à 8h demain matin.
Je vous rappelle que c'est Noël.
8h30, alors.
Si vous permettez, monsieur, une demi-heure de congé, c'est fort peu coutumier pour la fête de Noël.
Oh non, hein? Non, pas du tout.
Et peut-on savoir ce qui est coutumier, Monsieur Cratchit?
Eh bien, toute la journée.
Oui.
Toute la journée.
Ah non, ça c'est l'idée de la grenouille.
Mais si vous permettez, Monsieur Scrooge, pourquoi ouvrirait-on demain? Tous les commerces seront fermés, vous n'aurez personne avec qui traiter.
Non, personne.
Sans parler du prix du charbon pour le poêle.
Ah oui, le prix du charbon, ça c'est un bon argument.
Une piteuse excuse pour voler un pauvre homme tous les 25 décembre.
Ah.
D'ailleurs, ouais, la dimension sociale où il exploite hein, littéralement les gens qui travaillent pour lui. Il en a rien à faire que on est le 24 au soir, il en a rien à faire que le lendemain soit Noël et que ce soit férié. Au départ, il accorde que 30 minutes,
oui.
30 minutes de repos sur la journée du 25.
Non, mais c'est terrible, c'est monsieur, est-ce qu'on pourrait. Demain, c'est Noël. Ah bon, bah, au lieu de 8h, on va ouvrir à 8h30. Ah yes.
Incroyable. Heureusement qu'il y a cette bascule quand même vers un peu plus de considération pour l'autre. Et surtout, bien sûr, d'embrasser pleinement la journée de Noël, en effet. Donc là, c'est le tout premier visionnage, d'accord, en VHS. Est-ce que du coup, tu l'as saigné, la VHS, et regardez, tu sais, le fameux film en boucle qu'on regarde quand on est enfant?
Ah oui, et puis quand on est petit, enfin, vraiment, les cassettes, les VHS à l'époque, tu faisais que ça, des allers-retours, tu remets jusqu'à ce que la bande elle soit morte, qu'il y ait vraiment les traits qui apparaissent sur la TV. Donc oui, c'était un peu en boucle et c'était... Moi qui suis pas très... Je suis vraiment pas téléfilm de Noël, j'aime pas ça. J'ai très peu de rituels comme ça en me disant « Tiens, cette période de l'année, je vais regarder ça ou ça. » Il y avait que ce film où je me disais « Ok, là... » On approche de Noël, de l'ambiance, parce que j'adore Noël, c'est vraiment une période où dans ma famille, ça a pas mal d'importance. Et du coup, c'était le seul film où je le remettais, et encore aujourd'hui, si je fais une micro-référence à ce film, mon frère va rebondir tout de suite. Et ça nous a vraiment impacté parce que, voilà, pareil, à un moment donné, il mange une noix dans ce film. Et à partir de ce moment-là, mon frère voulait absolument qu'on mange une noix à Noël. Et comme ma famille est très conciliante, ils ont fait « Ok, on va vous acheter une noix pour Noël
!» Loi sur laquelle échoue le rat quand il tombe de la cheminée. Boum, il tombe
c'est
sur
ça.
Loi qui est en train de cuire. Et il a les pattes, du coup, qui sont cramées. Et comment il s'appelle ce rat, d'ailleurs?
Rizzo.
Ah, parce que je l'entendais pas bien, on le répète pas tellement son nom, où j'ai pas bien fait gaffe. J'ai surtout retenu évidemment Dickens, le narrateur, qui, eux, en effet, tu l'as dit, hein, casse ce quatrième mur. Donc, bon, on va passer le film en revue. C'est évidemment qui mélange des humains et des marionnettes. Et c'est vraiment aussi un film qui est parcouru par plein de chansons. Alors j'ai pris des notes là, c'est un peu le bordel, mais je vais y arriver. Il y a beaucoup de chansons. Il y a Encore une nuit de sommeil et c'est Noël de Kermit. Il y a la chanson des frères Marley, tu vois, qui se mettent à chanter aussi, parce qu'ils veulent envoyer Scrooge en enfer.
Oui, bah eux aussi, leur première apparition fait très peur. Il arrive dans sa maison, il y a des phénomènes un peu paranormaux, et il y a deux fantômes qui arrivent enchaînés, et qui expliquent qu'ils sont en enfer, qu'ils vivent un supplice, et que c'est ce qui attend Scrooge, parce que de toute façon, il est tellement cupide et méchant, que lui aussi finira en enfer si... s'il se repent pas très rapidement, quoi. Et ça aussi, c'est assez effrayant, ces fantômes qui viennent et qui disent « Mais toi aussi, tu vas brûler dans les flammes de l'enfer !» Ah bon, d'accord.
D'accord, c'est sympa, c'est feel good comme film. Je voudrais savoir, c'est quoi tes passages préférés dans le film? Qu'est-ce qui marche à tous les coups quand tu le visionnes? À quel moment t'es le plus en mode « je chante avec eux » ou « je suis ému avec eux » ou quelles sont les scènes qui t'ont le plus marqué?
Déjà, c'est vrai qu'il y a toutes les chansons, parce qu'elles, en fait, elles présentent bien un personnage ou une situation. Il y a cette toute première chanson qui parle de Scrooge, et qui te montre bien à quel point il est vicieux, comment tout le monde a peur, qu'il expulse les gens en plein hiver, parce qu'il s'en fiche.
Même quand le vent froid de l'hiver vous traverse la peau,
ce n'est rien comparé au grand désert polaire que traversent les cœurs solitaires.
Ça vous maquille la différence comme une fille se met du rouge.
Mais le plus égoïste,
au cœur froid, au cœur triste,
c'est celui qu'on appelle Scrooge.
Vampire malfaisant,
égrippe tout malveillant,
nous l'avons baptisé Scrooge.
Oh, bonjour, monsieur sans gueule, monsieur sans scrupule. S'il y avait un prix pour les crapules, vous seriez le vainqueur.
Il croit que ça lui donne le pouvoir d'avoir des millions de dollars.
Nous, la fortune des grosses légumes, c'est pas ça qui nous enrhume.
Même les légumes ne l'aiment pas.
Dans mes scènes préférées, il y a vraiment la chanson du fantôme des Noël présents, parce qu'elle est très joyeuse et qu'elle parle vraiment de ce qui finalement pour moi fait l'esprit de Noël, c'est cette idée de partage, que ce soit en famille ou entre amis, l'important c'est d'offrir de l'amour et du bonheur aux gens, même aux gens qu'on connaît pas d'ailleurs, et qu'il faut aussi penser un peu à plus miséreux que soi. Il y a ce passage-là, et puis il y a évidemment... toute la famille Cratchit dont la vie tourne autour d'un enfant qui est handicapé, et de cet amour familial, de tout l'amour qu'ils ont pour les uns, pour les autres, qu'ils font avec ce qu'ils ont, même s'ils n'ont pas grand-chose.
Alors, j'essaie de raccrocher les wagons. Là, dans le deuxième extrait, tu disais...
Ouais, c'est sa rencontre avec le deuxième fantôme, celui qui ressemble à Hagrid. Moi, il me fait penser à Hagrid.
Mais oui, pareil, je l'ai noté aussi.
Un géant, c'est le fantôme des Noëls présents, il est bedonnant, il a plein de nourriture autour de lui, les lumières sont très chaudes, très chatoyantes, tout le monde chante, et lui, il chante que l'important à Noël, c'est l'amour, l'amitié, c'est de penser aux autres, voilà, c'est un moment très très joyeux, tout le monde chante, tout le monde danse.
Non, je vois très bien, en effet, c'est une scène qui est très sympa. C'est vrai que c'est une espèce d'Hagrid en 3D. Ouais, il vaut son pesant d'or, celui-là.
C'est une chanson qu'on chante en chœur dans les ruelles. Un sapin décoré de givre et de chandelles. Partout où l'on trouve l'amour, ça sent bon Noël. Un peu de chaleur qu'on partage entre deux cœurs. La joie de retrouver un frère ou une sœur. Partout où l'on trouve l'amour, ça sent bon Noël. Noël, c'est la saison du cœur qui rend le monde meilleur, un parfum de bonheur. Et Noël, c'est la saison des rois mages qui nous délivre un message d'amour universel.
Les visionnages suivants, ils sont opérés quand ? Parce que aujourd'hui, à la trentaine, enfin, qu'est-ce qui s'est passé durant cette vingtaine d'années écoulées pour qu'il continue à te suivre, ce film ? Ça devient un rituel à chaque Noël ? Est-ce qu'on le partage ? Est-ce qu'on arrive à initier d'autres personnes ? Qu'est-ce qui fait qu'il t'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui pour que tu aies envie de m'en parler aujourd'hui ?
Bah, comme il est attaché à mon Noël, finalement, c'est un peu comme quand Noël arrive et tu te dis « Ah bah là, il faut mon calendrier ». Ça, c'est des trucs qui restent des rituels. Moi, j'ai toujours un calendrier quand arrive la période de Noël parce que c'est, voilà, c'est devenu un rituel. Et du coup, avec ça, il y a plein de choses qui reviennent, des souvenirs. Et il y a systématiquement ce film où je me dis « Ah, c'est la période de mon film, du Noël chez les Muppets ». Et est-ce qu'on finit par réussir à faire regarder d'autres ? Oui, j'ai réussi à faire regarder mon acolyte Mélanie. Après moult tentatives, elle me disait « Non, mais je veux pas voir ça, c'est vieux. » Elle connaissait pas non plus. Elle me fait « Non, c'est vieux, c'est des marionnettes. » Alors, faut savoir que, étrangement, je n'aime pas spécialement les marionnettes, bizarrement. Je sais pas, il y a un truc qui me repousse un petit peu, mais celle-là, ça va. Et elle me dit « Non, je veux pas voir ça. » Je lui fais regarder quand même. Et à la fin, elle me fait « Bah franchement, c'était pas si mal, en fait. » Et du coup, ça y est, elle connaît aussi les musiques. Enfin, voilà, elle reconnaît. Et elle m'a dit « Non, finalement, c'était pas si mal, en fait. »
Mais oui, parce que ça a 30 ans dans la tronche. Hein, donc, avec un grand Michael Caine qu'on ne présente plus, hein, qui incarne Scrooge, c'est bien évidemment pour la génération plus récente, Alfred dans les Dark Knight de Nolan, dans les Batman. Mais... c'est, oui, ça a pris un certain coup, forcément, au niveau des effets spéciaux, notamment quand il est emmené par l'un des trois fantômes, on va y revenir. Ça, voilà. Mais j'ai pas trouvé ça déplaisant, hein, sincèrement. C'est juste que c'est vraiment pour les petits. D'ailleurs, le film est conseillé pour les enfants à partir de 8 ans.
Et pourtant, moi, je me souviens qu'il y a des passages qui me faisaient peur quand je le regardais. Il y a vraiment... Alors, aujourd'hui, ce qui fait un peu peur, c'est plutôt les effets numériques, on va pas se mentir. Mais il y a des passages... En fait, ça reste quand même une très bonne adaptation du roman de Charles Dickens. Et Charles Dickens, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, c'est quelqu'un qui vient de l'époque victorienne. Donc, on est au 19e siècle. C'est une période très sombre, avec beaucoup de crises politiques et économiques. Et du coup, à la base, ce n'est pas un roman qui est fait pour les enfants, c'est fait pour les adultes. Et du coup, les sujets abordés sont pas vraiment drôles. Ça parle de la mort, on a un personnage qui ressemble à un espèce de détraqueur, on a ce premier fantôme qui arrive, il fait nuit, il y a des moments très sombres, et moi, il y avait vraiment des passages où, avec mon petit frère à l'époque, tu regardes, mais t'es pas très serein.
Puis c'est pas facile d'accès aussi, on a quand même un personnage, un héros qui est un misanthrope, quoi. Il aime personne, il est avare, c'est une espèce de pixou mélangé à un Dr House, quoi, tu vois. C'est...
Oui, bah d'ailleurs, chose amusante, justement, Mickey a fait son Noël de Monsieur Scrooge aussi, il y a eu une adaptation façon Mickey, comme ça, avec les personnages, justement. Mais oui, il est là et il dit quand même que lui, les pauvres, s'ils meurent, tant mieux, ça réduit le surcroît de population. C'est très violent quand même à entendre.
C'est d'un cynisme, laisse tomber, c'est méchanceté, mais oh, ouais, c'est clair, ça fait un peu peur. Juste le dernier visionnage de ce film, là on enregistre, on est en décembre. Il y a déjà prévu le prochain visionnage ? Est-ce qu'il y a des visionnages aussi récents, quitte à ce qu'ils soient hors période des fêtes ? Enfin, est-ce que vraiment c'est revenu, c'est récurrent, quoi ? C'est un passage oublié, enfin, entre guillemets, un passage, un rituel. Est-ce que c'est ritualisé ton visionnage du Noël chez les Muppets ?
C'est pas tellement ritualisé. Là, je l'ai revu pour l'émission. Peut-être que je l'aurais revu quand même cette année, mais ça rentre pas vraiment dans mes prérogatives comme un calendrier où je me dis « Ok, là c'est le premier, il faut l'ouvrir, il faut le regarder ». C'est un film qui revient et je me dis « Est-ce que je le regarde ou pas ?» C'est pas forcément prévu. Donc il y a quelques Noëls, je pense, qui ont sauté. Par contre, le regarder en dehors du mois de décembre, non, je pense que je pourrais pas le faire. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est pas le moment de le regarder, il n'y a pas ce froid, t'es pas avec ton plaid, t'es pas... chez moi, dès que c'est le 1er décembre, tout est décoré, et donc il y a tout ce décorum qui vient enjoliver encore ce film. Alors le regarder en plein été avec une glace, ça me paraîtrait tellement étrange.
Non mais je comprends tout à fait, tu te crées ton cocon en fait, et ça c'est the cherry on the cake, de mater Noël chez les Muppets. Je vois très bien en effet. À la fin du film, il y a un conseil qui est donné par le Dickens, incarné par cette marionnette. Il nous dit, vous avez aimé cette histoire ? Bah allez lire le livre de Dickens. Dickens, c'est Oliver Twist, hein, pour donner une autre référence. Ce Noël chez les Muppets est basé sur le livre Un chant de Noël, qui a servi donc de support à différentes versions de Scrooge, on va en parler après. En VO, c'est A Christmas Carol. Bref, est-ce que justement tu as suivi ce conseil ? Est-ce que tu t'es plongé dans le livre pour peut-être encore découvrir plus de choses ?
Pas totalement. Pourtant, c'est quelque chose où, bah, bizarrement, à chaque fois, je me suis dit, mais il serait peut-être temps de lire le livre, il serait temps de lire le livre quand même. Surtout que, vraiment, ce film m'a tellement impacté que je me suis dit, Charles Dickens, quand on connaît un petit peu, ne serait-ce que d'autres adaptations, comme effectivement Oliver Twist, David Copperfield, etc., etc., et je me suis dit, c'est un auteur qui me parle, et pourtant, je ne suis allée que, de façon très superficielle, regarder un petit peu des extraits, des passages de ce livre, pour me rendre compte que vraiment, il y a des répliques qui sont reprises à 100% dans l'adaptation, et de voir à quel point, en fait, malgré ce côté enfantin, l'adaptation est hyper fidèle. Donc, je me dis, oui, il faudrait peut-être que je le lise. Donc je sais pas, ou peut-être que finalement j'ai pas envie que le livre soit pas avec des Muppets dedans, ne soit pas avec Charles Dickens qui me balance des petites vannes et qui casse un peu le quatrième mur et qui me fait rentrer dans le film un peu avec eux, parce que comme on n'arrête pas de nous parler, on a, en fait c'est Gonzo hein, qui joue Charles Dickens et qui est avec Rizzo le rat, et qu'ils n'arrêtent pas de nous faire rentrer dans le film en disant viens avec nous, il nous parle, il fait ah bah là ça nous fait peur les copains, on revient tout à l'heure. Bah, du coup, peut-être que je le vivrais pas pareil, je serais peut-être pas dans l'histoire moi aussi.
Et d'ailleurs, ce qui est drôle, le comique de répétition pour les enfants, les tout petits qui seront devant, c'est qu'à chaque fois, ils se font envoyer dans le décor quoi, par les personnages. Oui. Que ce soit par Scrooge ou d'autres, à chaque fois, ils se font envoyer dans le décor pour X ou Y raison. Et j'ai parlé d'ailleurs au début d'émission de cette scène où il finit. Enfin, il y a Dickens qui ramène une cheminée. Et le rat finit par tomber dedans et finit donc par atterrir sur une noix qui est en train de frire. Et du coup, il finit par avoir les pieds cramés. Il y a plein de comiques comme ça pour les enfants, un peu comme les Ewoks plus tard dans Star Wars ou j'en passe quoi.
C'est ça, surtout que Rizzo, qui accompagne Dickens au début, il est un peu comme nous, il est hyper cynique. Il y croit pas du tout, il fait mais n'importe quoi, t'es pas Dickens, tu n'es pas du tout l'auteur omniscient, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, comme on a toujours ce personnage de Dickens qui nous raconte l'histoire, et Rizzo, écoute, tu fais, mais je comprends pas comment tu peux savoir ça. Et au bout d'un moment, il finit par comprendre que bah oui, ça, c'est l'auteur, il connaît les événements, enfin c'est très drôle aussi ce petit jeu de oui. N'importe quoi, tu n'es pas l'auteur, enfin.
C'est génial pour les gamins aussi d'expliquer, mais je suis omniscient, je sais tout, je vois tout, tu vois. J'ai beaucoup aimé. C'est sympa de mettre des mots un peu plus compliqués pour les gamins qui regardent et tout, et pour mieux comprendre pourquoi lui il sait tout. Je trouvais ça mignon.
Et surtout, je trouve que ça prend pas les enfants pour plus bêtes qu'ils ne sont, parce qu'ils font pas exprès de choisir du vocabulaire plus moderne ou qui serait plus simple. Il y a vraiment des mots qui peuvent être, suivant son âge, un peu compliqués. Mais moi, je me souviens, tu vas voir tes parents, tu te dis, mais ça veut dire quoi ça? Et en fait, finalement, tu apprends du vocabulaire comme ça et on prend pas les enfants pour plus débiles qu'ils ne sont, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que, oui, on te parle de pauvreté, de misère sociale, de capitalisme, d'avarice. Voilà, non, c'est... un roman qui t'apprend aussi des choses.
Ce sera vite fait au train où tu les avales.
J'active la rupture de stock pour faire monter les prix.
Oh, Rizzo. Oh, bonjour. Oh, bienvenue au Noël chez les Muppets. Je suis là pour vous raconter une histoire.
Et moi, pour m'empiffrer.
Je m'appelle Charles Dickens.
Et moi, Rizzo le rat. Non mais tu divagues. T'as jamais été Charles Dickens.
Ça dépend des jours.
Mais Charles Dickens, une bestiole poilue qui vendait des pommes avec un rat.
Absolument.
Charles Dickens était un célèbre écrivain du 19e siècle, un génie.
Oh, tu me flattes beaucoup.
Et pourquoi je te croirais d'abord?
Mais parce que je connais l'histoire du conte de Noël sur le bout de mon doigt.
Prouve-le.
Regarde, j'ai un tout petit bouton sur le pouce et une cicatrice sur le poignet qui date de ma chute à bicyclette.
Non, laisse ta main tranquille et parle-nous de l'histoire.
Oh, pardon, oui.
Donc ensemble, là, on parle du Scrooge de version 92, mais il y en a eu d'autres. Il y en a une qui est très loin dans le temps, qui date de 1951, qui a été réalisé par Brian Hirst. C'est une version britannique, avec Alistair Sim et Kathleen Harrison, entre autres. L'histoire est celle-ci, un homme d'affaires richissime et avare reçoit la nuit de Noël la visite du spectre de son associé qui lui annonce la venue de trois esprits de Noël. En fait, j'ai une question toute simple, c'est est-ce que ça t'a intéressé, est-ce que ça t'a intrigué, et est-ce que tu es allé vers cette très vieille version ?
Alors non, parce que effectivement le roman en fait de Dickens, en fait, dès lors qu'il est paru, il a déjà eu des adaptations. C'est-à-dire que 8 mois après, il y avait déjà des pièces de théâtre qui étaient en train d'être construites sur son histoire, tellement ça parlait en fait à la population. Et du coup, des adaptations, il y en a pléthore. Mais alors, je pense que vous pouvez faire tout votre mois de décembre dessus. Mais je ne suis pas partie sur des versions plus anciennes, c'est vrai. Je crois que j'avais besoin de garder ce côté très... magique, qui souvent est peut-être associé justement aux enfants, un peu comme les films d'animation, donc la version de Mickey reste assez magique.
Le nom de la version Mickey, c'est quoi ?
Je sais plus, mais je crois que ça doit être quelque chose comme le Noël magique de Mickey. Il me semble que c'est ça le titre. Et après, il y a eu une version un peu en 3D qui était basée sur de la stop motion faite sur Jim Carrey, que je trouve terrifiante.
J'y viens. C'est là où j'avais peur de me faire engueuler. Donc, réalisé par Zemeckis, grand monsieur du cinéma qu'on ne présente plus, Retour vers le futur, entre autres, bien sûr, c'est en 2009, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, et là, on est en motion capture.
Et c'est absolument terrifiant, je trouve. Très honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois, je crois que j'ai jamais réussi à dépasser un quart d'heure, parce que pour moi, il n'y a rien d'agréable visuellement. C'est très laid, c'est peut-être le début de la 3D, mais c'est vraiment laid, je vois rien de magique. Le monsieur, pour le coup, Ebenezer fait vraiment peur, mais c'est pas peur en lui-même, c'est pas une aura comme un Severus Rogue, par exemple, qui ferait peur pour son aura. Là, c'est vraiment, visuellement, c'est repoussant, je trouve. Mais des adaptations, il y en a eu aussi en rom-com, j'ai plus le titre exact, mais une rom-com où c'est un gars qui est... genre un tombeur et qui reçoit au lieu des trois fantômes de Noël reçoit ses trois ex et c'est un peu comme ça qu'il va devoir évoluer mais ça c'est pareil pour moi c'est pas l'histoire, c'est pas magique, c'est pas Noël, c'est un autre délire et je peux pas partir sur ce genre d'adaptation alors que j'ai beaucoup aimé la version de la BBC qui est sortie en 2017-2018 qui est une mini-série de 3 épisodes. Et pourtant, elle a rien de vraiment magique parce qu'elle est très gothique. Pour le coup, elle prend vraiment le parti pris époque victorienne sombre, angoissante. On est plus dans le côté un peu spiritisme. Mais j'ai apprécié parce que c'était très esthétique. Et ça, là, c'est un type d'adaptation que j'aime voir de ce roman de Dickens.
T'as pas le titre à tout hasard pour nos auditrices auditeurs ?
Et en anglais, parce que moi je l'ai vu en anglais, il porte le même nom, A Christmas Carol. Donc ça doit être, la version française doit s'appeler sûrement Un conte de Noël.
Je l'ai bien retrouvé en effet, A Christmas Carol, c'est une mini-série qui est sortie il y a 2 ans, ouais, en 2019, et le casting est dingue. Guy Pearce et Andy Serkis, donc Monsieur Gollum ou César de La Planète des Singes ou Gollum du Seigneur des Anneaux, ouais, le casting est dingue, ça donne envie.
Et c'est très beau, ouais. Honnêtement, c'est une... Ouais, c'est... J'aurais pu la mettre en reco, c'est vrai, finalement, mais je vous la donne maintenant.
Et les choses sont bien faites, hein. Juste une dernière question pour donner un peu une idée. Elle est cruelle, celle-là, mais bon. Est-ce que tu penses que la jeune génération, que les enfants de 10 ans aujourd'hui, qui sont gavés de dessins animés, de films d'animation en 3D, peuvent aimer ce Noël chez les Muppets, ou est-ce que il a vieilli par certains aspects ?
Alors, esthétiquement, oui, je pense que le gap est assez énorme entre aujourd'hui et à l'époque. Autant les faire regarder des Disney en 2D, ou tous les films d'animation comme on connaît, comme les Astérix, etc., ça peut passer parce que ça n'a pas tant vieilli que ça, je trouve. Là, on est sur un mélange entre des humains et des marionnettes. C'est assez spécial. Je pense que c'est possible pour des jeunes adultes qui se dirait « Ok, je mets mon petit filtre vintage sur le film, j'accepte et je peux le comprendre. » Pour des plus jeunes, ça risque d'être un peu difficile Par contre, en termes de contenu, en termes de thématique, pour moi, c'est universel et je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a toujours des adaptations, toujours des spectacles dessus, parce que c'est des thématiques qui n'ont jamais vraiment disparu et on sent l'engagement en fait, de Dickens derrière. D'ailleurs, dans tous ses ouvrages, c'est hyper marqué à quel point il était investi sur la pauvreté, le travail des enfants, les femmes, etc. Donc... Je ne sais pas, j'aimerais que les gens essaient et voient si ça marche ou pas, parce que c'est quand même une bonne approche et moins violente que la version BBC, parce que là, on perdrait des enfants, ils seraient traumatisés à vie. Donc, je ne sais pas, mais très honnêtement, je ne pense pas que ce serait simple et accessible.
Bon, bah vous l'aurez compris, hein, elle est méga, méga, méga fan, Julie, de ce Noël chez les Muppets. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, je me suis senti un peu vieux en le regardant. Mais c'est mignon tout plein. Franchement, vous pouvez mettre vos enfants devant pour les moins impressionnants quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des périodes, il y a certaines scènes où on peut avoir peur. Genre la découverte du fantôme du présent, l'esprit, tu sais, du présent, il peut faire un peu peur. Hein.
Oui, non, pas du présent, c'est parce que c'est pardon, celui qui... Il y a celui du fantôme passé qui est la petite fille qui flotte. Bon, ça, c'est un peu flippant pour le coup. Mais celui du futur, avec cette absence de visage, il est très grand, il est drapé de noir, il n'a pas de visage, on le retrouve dans un cimetière. Ouais, c'est assez flippant. Mais en fait, c'est vrai qu'il a vieilli, honnêtement. Mais moi, ce qui me fait chavirer en le regardant, c'est que vraiment... Et d'ailleurs, c'est l'effet qu'il a eu sur la société juste après sa sortie, c'est que les gens se sont rendus compte que bah, il n'y avait pas que dans la vie et qu'il faut savoir aussi donner un peu de soi pour les autres. Que l'important, c'est avant tout les sentiments qu'on apporte, c'est pas la quantité. D'ailleurs, dans tout le film, le rêve, c'est pas d'avoir plein de cadeaux, c'est pas de consommer, c'est d'offrir à quelqu'un et que quelqu'un soit heureux de le recevoir.
T'es en train de nous dire que déjà à l'époque, à une moindre mesure, on voulait faire passer le message de ne pas surconsommer.
Voilà, société de consommation.
Ah ouais, quand même, ok.
Non, mais ouais, je trouve fou de se dire que dès sa sortie, le livre a eu un impact parce qu'il y a eu des gens très riches, même aux États-Unis, parce que le livre est très rapidement allé jusqu'aux États-Unis. Partout en Europe, des gens riches se sont dit « Ah ouais, mais au fait, faudrait peut-être que j'aide les autres. » Et qu'ils ont fini par payer des orphelinats ou des instituts pour enfants handicapés. Et que finalement, ça a réveillé ça a fait un peu ting dans leur tête. Et moi, quand je le regarde, et quand les gens regardent ça, j'ai envie que les gens se rappellent aussi que c'est ça avant tout, Noël. C'est aussi de penser aux autres et de partager. C'est pas juste de courir, aller chercher sa montagne de cadeaux absolument, d'avoir tel ou tel gâteau, et puis d'être un Dudley dans Harry Potter qui met... L'an dernier, j'en avais 37. Des cadeaux, cette année, j'en veux 38.
L'éternel insatisfait, on aura tout vu. Ouais. Bon, on n'aura pas mieux, hein. Je trouve que c'est une belle conclusion, je n'arriverai pas à faire mieux. Enfin, pour conclure sur ce Noël chez les Muppets qui date de 92, qui est sorti en 93 en France, et il est disponible sur la plateforme Disney Plus et sur de nombreuses plateformes en VOD, vous pouvez le trouver un peu partout, mais Disney Plus est plus facile d'accès. On va clôturer c'est le dernier film qui a changé ma vie de l'année 2021 avec ta recommandation, une ultime recommandation, un autre film de Noël dont tu souhaitais nous parler, Julie. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Eh bien, je vous recommande un film d'animation qui est sorti sur Netflix. Ça a été produit par Netflix et qui s'appelle Klaus. Et j'ai été hyper étonnée parce que du coup, j'aime bien suivre quand même ce qui sort en actualité dans les films d'animation. Et quand celui-là est sorti, ça parlait de Noël, j'étais assez intriguée, je l'ai regardé et je le trouve incroyablement magnifique parce que ça a été un contre-pied total quand il est sorti. Il a d'ailleurs eu un Oscar en 2020. Parce que à cette époque où la 3D, la synthèse, tout par ordinateur prend le pas, et ben des dessinateurs ont décidé que non, eux, ils allaient faire de la 2D, mais une 2D qui est tellement magnifique que en fait on oscille entre une impression de 3D et des décors qui semblent peints comme un ancien Disney. Et du coup la technique est incroyable, vraiment, c'est un bijou, il est magnifique. Et puis c'est très drôle, c'est très mignon et c'est un peu un préquel de comment Noël est apparu et comment le Père Noël a existé. Et j'ai trouvé le concept génial.
Bah, ça donne énormément envie. Je sais pas pourquoi je m'y suis toujours pas mis, mais je vais m'y mettre cette année. Oui, j'adore ce classicisme assumé qui en dégage. Et arriver à arracher un Oscar du film d'animation à un Pixar, faut arriver à le faire. Donc c'est que ça doit être gage de qualité. En effet, donc vraiment retenez bien cette reco de Julie pour Noël, ça s'appelle Klaus, ça date de 2019, parmi les voix les plus célèbres, on a celle de Rashida Jones qu'on avait pu voir dans The Social Network, et surtout J.K. Simmons, le fameux Jameson des Spider-Man, qui va arriver d'ailleurs dans le troisième volet qu'on attend tous, No Way Home. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir accepté de revenir dans le film qui a changé ma vie. Merci beaucoup, Julie.
Bah, c'était avec grand plaisir que je suis revenue, toujours pour parler en plus d'œuvres qui m'ont marqué. Et puis voilà, et puis toujours prête pour parler de Noël, donc il n'y a pas de souci, c'était avec grand plaisir que je suis revenue.
Merci beaucoup. Pour rester dans le partage, tu peux revenir une troisième fois si tu le souhaites, mais pitié pas un Bollywood. Voilà. Merci beaucoup, Julie, à bientôt.
À bientôt, merci.
Le film qui a changé ma vie, c'est déjà fini. Notez bien qu'on se retrouve fin janvier 2022. Je vais être sympa, je vous laisse un indice concernant le prochain film qui sera au centre de la conversation. Ce sera une comédie musicale sortie dans les années 70. Sachez que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission que vous venez de suivre sur toutes vos applis streaming préférées. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Pour découvrir l'émission, il suffit de suivre nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un bon réveillon. Profitez bien de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.
I don't want a lot for Christmas.